When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bienvenue dans On The Verge, un podcast qui parle de sexualité au masculin. Nous sommes après 2 mois et demi de lancement de On The Verge. Ce sera la 5e discussion que vous vous apprêtez à entendre. Et je voulais vous remercier infiniment pour votre accueil, votre soutien et les retours très positifs que j'ai sur ce podcast. Je suis ravie de me rendre compte à quel point la parole autour de ça apporte ses fruits. Qui que vous soyez, qui que vous aimiez, quoi que vous fassiez, dans tous les cas, je sens et je me rends compte à quel point ça fait du bien d'entendre les hommes parler d'eux, de leur intimité, de leur libido, de leur sexualité, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas, etc. Donc merci infiniment pour tout ça et merci à tous mes invités pour leur grande confiance. Je vais vous présenter maintenant M, qui a 33 ans. Avec M, nous avons beaucoup ri, mais nous avons surtout parlé de libido dans le couple, l'érosion du désir. Nous avons parlé de plan A3, nous avons parlé de spéculoos, nous avons parlé de musique, mais aussi de l'islam, sa religion, mais aussi sa philosophie de vie à deux. Je vous laisse avec M et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet échange que j'en ai eu à l'enregistrer. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça va ?
Ça va et toi ?
T'es un peu impressionné.
Un peu, ouais.
Mais ça va bien se passer. Je vais te poser des questions sur ta sexualité et tu vas tout me dire.
Je ferai de mon mieux, promis.
La discussion va s'articuler en 3 temps. On va parler d'avant, ensuite on va parler de ta sexualité maintenant. Quelle est-elle à 33 ans en tant que com'? Comment tu vis ça ? Je crois que tu es célibataire.
Tout à fait, oui.
Et après on va parler du futur. On va commencer par une question toute simple. Quel est ton premier souvenir autour de la sexualité ?
Autour de la sexualité, j'ai un souvenir qui n'est pas très sexuel en soi, mais qui m'a marqué et dont je me rappelle toujours avec une certaine forme d'émotion. Quand j'étais petit, je devais avoir 4 ou 5 ans, mes parents m'ont autorisé à dormir chez des amis à eux parce qu'ils avaient une petite nièce à la maison avec qui on s'entendait bien. Et le matin, en me réveillant pour aller petit déjeuner avec eux, je suis passé, la porte de la chambre était ouverte et la femme de ce couple-là était nue. Et donc c'était tout à fait particulier parce que j'étais à un âge où j'étais incapable justement de réfléchir à ça, mais je sais que ça m'a marqué et des années plus tard, quand j'y ai pensé, j'ai vu le potentiel complètement érotique du truc qui avait été complètement pas forcément nié, mais en tout cas dont j'étais pas capable de me rendre compte à cette époque-là, quoi.
Ok, un corps de femme.
Ouais, un corps de femme, ouais. Et c'était une femme assez mûre, elle devait avoir 40-45 ans, donc...
Une MILF.
Une MILF, exactement, des formes.
Ok, donc ça c'est la toute première image qui te vient.
Toute première image qui me vient.
C'était quoi le rapport à la sexualité chez toi, ton éducation autour de ça ?
Un rapport pas inexistant, mais en tout cas caché en fait. Forcément, j'ai grandi dans un milieu qui était un milieu musulman où il y a un sens de la pudeur qui est assez important et où t'as un tabou manifeste par rapport à la nudité, à la sexualité, à ce genre de choses. Et je pense que le meilleur exemple que je puisse te donner pour illustrer ça, c'est le fait que quand il y avait une scène de cul en fait à la télé, tout le monde était sur ses gardes. Et dès que ça devenait un peu trop chaud, celui qui était le plus près de la télécommande prenait et zappait.
D'accord. Ouais. C'était tacite entre vous.
Ouais, bien sûr. Mais c'était pas tacite juste entre nous, c'était tacite avec tout le pays. C'est-à-dire, j'avais beau être chez des cousins, chez des oncles, chez des gens que je connaissais pas, la nudité à la télé, ça se zappait directement. Et justement, pour te montrer à quel point c'était tacite dans tout le pays, à la télévision publique algérienne, quand ils passaient des films étrangers, les scènes de nu étaient purement et simplement coupées.
Ah oui, donc pour la compréhension du film, on est...
Écoute,
T'imagines.
Les gens passaient leur temps à ne pas faire l'amour dans les films d'action. Quoi.
Ok. Et donc, si tu avais des questions, toi, le petit garçon que tu étais, puis le pré-ado, ces questions trouvaient leur réponse où ?
Pas de réponse. Okay. J'ai jamais de réponse.
Des questions, mais pas de réponse.
Pas de réponse, bien sûr. Déjà, tu pouvais pas vraiment poser de questions. Juste pour te donner un autre exemple. Une fois, on est avec le mari de ma tante en train de regarder Pyramide. On regarde okay. Pyramide et je dois avoir 6-7 ans à ce moment-là. Le mec est féru de Pyramide, donc au niveau du français, des termes, ce genre de choses, il est costaud. Les mecs découvrent le mot orgie. Je suis là, tonton, c'est quoi orgie ? La gêne. Et je l'entends dire, ouais, tu verras quand tu seras grand. Et il a coupé court au truc.
Ok.
Après, je suis pas con, tu vois, on avait déjà des dictionnaires à la maison.
Lettre O.
Je suis allé voir, ouais.
C'est bien, ça, en même temps, ça t'a forgé à chercher par toi-même.
Exactement.
Mais alors, du coup, question, comment tu apprends quand tu es petit
On avait des cours de SVT où c'était mis en avant, mais en fait, il faut bien voir qu'il y a une dichotomie énorme entre ce qu'on t'apprend, qui est c'est-à-dire purement technique et biologique, mmh. et le rapport à la sexualité en elle-même. C'est-à-dire mmh. la partie sexuelle, elle est tue. C'est simplement le côté procréation qui est mis en avant, c'est tout.
Ok. Donc en fait, quand tu deviens pré-ado et cette fameuse... ce fameux moment dans la vie des jeunes hommes et des jeunes femmes où les hormones commencent à t'accompagner, comment ça se passe ?
Alors, il faut aussi dire qu'on avait toutes les chaînes françaises. Donc le dimanche, c'était le film de M6. Pratiquement tout le monde avait Canal+ aussi. Donc le premier samedi du mois, c'était justement une sorte de conversation entre nous et les plus grands dans mon quartier. Et ceux qui étaient vraiment au top, c'était ceux qui avaient une télé dans leur chambre. Ils n'étaient pas nombreux. Ils pouvaient justement s'arranger avec ceux qui avaient un magnétoscope à la maison. Et
il y avait un...
voilà. Voilà. Et derrière,
une vraie connexion amicale.
Une grosse connexion amicale. Et puis, c'était la liste d'attente. Quoi.
D'accord. Et c'est comme ça, en fait, que tu as vu les premiers corps nus, les premiers moments où tu comprends que la sexualité égale le plaisir, la nudité, le rapport sexuel,
bah,
etc.
Il y avait quand même un gros décalage, tu sais, entre le film d'M6, qui était un film érotique, ou... qui ressemblait entre guillemets un peu à la réalité. Où,
oui, c'est du porno à la papa.
Ouais, c'est même pas du porno, c'était vraiment érotique, quoi. C'est-à-dire, les gens se faisaient des bisous. Tu vois, donc il y avait un truc qui était un peu sympa, mais c'est vrai qu'ensuite, le décalage vers la pornographie pure était assez, assez conséquent, quoi.
Et t'avais quel âge à ce moment-là ? Tu t'en rappelles ?
9-10 ans, je pense, un truc
dans le genre. Ouais. Super tôt.
Ouais, mais c'était très très limité, tu vois. Genre, on est en train de parler d'un mec qui avait 3 photos sur un magazine et un autre type qui avait réussi à enregistrer 3 scènes.
Tu sais, en faisant rec et play en même temps.
Bien sûr. En plus, tu sais, c'était l'époque où, bon, les gens traînaient beaucoup plus à la maison, tes parents étaient souvent là, t'avais jamais 2 minutes à toi pour utiliser le magnétoscope, quoi.
Ouais, donc ça devient un défi, un vrai défi d'arriver.
Ouais, bien sûr.
Donc là, t'as 9-10 ans, tu commences à comprendre un peu comment ça marche, t'as les premiers émois. T'arrives au collège, donc c'est des moments généralement où on commence un peu les flirts, le rapport aux filles.
Pas vraiment au collège, en fait, parce que mon collège, j'avais l'impression que tout le monde était vénère. Personne voulait se mettre avec personne. T'avais plus de chances de te faire embrouiller par des meufs. C'est genre fin collège, début lycée que les flirts ont réellement commencé.
Ok. Toi, t'étais pubère tôt ?
Pas trop, pas tant que ça. Hein. 13-14 ans, un truc dans le
okay.
genre.
Ok.
C'est-à-dire, j'avais beau être intéressé par la sexualité, c'est déjà une période où je matais les meufs, entre guillemets, mm-hmm. mais,
ton corps
mais j'étais pas encore, tu sais, dans la recherche de.
D'accord.
C'est-à-dire, il me semblait que c'était deux choses complètement distinctes et que j'y étais pas encore.
Et ton rapport au corps, justement, quand il a commencé à changer ?
Bah, en fait, pour être tout à fait franc avec toi, la première fois que j'ai eu une éjaculation, j'étais choqué, c'était un peu inattendu.
Ouais.
Des érections, ça arrivait depuis un certain temps, donc la question se posait pas, mais la première fois que j'ai fini, je m'y attendais pas.
Ok. Et c'était une masturbation que tu avais toi-même.
Ouais, je suis passé, ben c'est écoute, c'était un miracle, il n'y avait personne à la maison sur là.
Profitons-en.
Et ça m'a pris d'une façon complètement inattendue. J'étais là, wow, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, j'ai bien aimé ça. J'étais là, ouais, ok, sympa. Écoute, c'est
On est
cool.
sur un truc
Ouais, ah,
intéressant.
je peux faire ça.
Et ça
D'accord.
recommence.
Ouais, ok, très bien. Bah, écoute, dès que j'ai la prochaine opportunité,
Qui s'offrait à toi.
je suis dedans.
Ok. T'es fin du collège, début du lycée, donc commence un peu le rapport, enfin le rapprochement avec les filles. Et les filles, évidemment, pas les garçons.
Non, bien sûr, pas les garçons.
Alors le bien sûr.
Le bien sûr est une sorte de bien sûr avec moi-même. C'est-à-dire,
D'accord.
moi qui connais parfaitement mon parcours, ça c'est.
La question ne s'est pas posée.
Non. En fait, si, elle s'est posée, mais par rapport à un discours commun. C'est-à-dire que c'est justement l'époque où on commençait à parler d'homosexualité, ça peut sembler ridicule aujourd'hui, ou sauf pour une minorité d'abrutis, le truc est considéré comme déviant ou autre. Mais à l'époque dont on parle, donc le milieu des années 90, on commençait justement à parler d'homosexualité, mais c'était encore très très rare de voir à la télé des gens qui
Bien sûr.
s'embrassent ou ce genre de
Même dans
choses.
la rue, même.
Ouais, bien sûr, même dans la rue aujourd'hui, ça reste rare, mais par
Oui.
rapport à l'époque, c'était pratiquement
Oui.
infaisable.
Oui,
C'était
non, non, je suis d'accord
pratiquement
avec toi.
infaisable. Et donc, c'était justement un rapport à l'homosexualité qui est à la fois basé sur un truc purement culturel, c'est-à-dire qu'on peut retrouver et dans les sociétés à dominante musulmane, comme dans les sociétés occidentalisées. C'est-à-dire une forme de rejet de l'homosexualité quand on prétend être un bonhomme. Et cette idée aussi que l'homosexualité peut être un truc, entre guillemets, qui s'attrape. Donc quand j'étais jeune, je me disais, ça se trouve, peut-être je suis gay, je le sais pas, peut-être ça va se révéler un jour ou l'autre. Et en fait, est arrivé un moment où, bon, clairement, j'ai commencé à être un peu plus âgé, un peu plus sûr de moi. Et donc à partir de là, la question ne s'est jamais posée. C'est-à-dire, justement, je suis le genre de type, j'ai absolument aucun souci à trouver un garçon beau, et je suis même un mec très tactile avec les garçons et avec les filles. Je suis genre, avec mes potes mecs, je suis le copain câlin. On fait des gros
Copain
bisous,
câlin.
ouais, on se fait des checks, enfin.
Des hugs et tout ça.
Tout ce qu'on peut faire de non sexuel. Donc
Ok.
là-dessus, justement, jamais eu à me poser réellement la question par rapport à ça, parce que le sujet ne s'est jamais posé à
Ok.
moi.
Donc, fin de collège, début lycée, tu commences à flirter, enfin, en tout cas, à t'intéresser aux filles de façon plus concrète. Tes souvenirs autour de ça, les premiers flirts, les rapprochements avec les filles?
Ben, c'est drôle à dire, parce que cette période collège-lycée, enfin, dont je te parle, c'était pas une période très sexuelle, ni dans le fond, ni dans la forme. Je m'explique. En gros, on est tous à cette période plus ou moins obnubilés par l'aspect sexuel. Mais ça reste essentiellement quelque chose de fantasmagorique. C'est-à-dire que dans les années 90 au lycée, pour coucher avec une fille, il fallait être son mec en fait, et rester un certain temps avec elle. Les rares qui avaient une vie sexuelle étaient en couple depuis 2 ans, et ils se comptaient sur les doigts d'une main ou deux. Donc nous, tout le reste, on était en train de se découvrir soi-même, ou en train justement d'essayer de plaire à des filles. Mais il y avait aussi une dimension qui était très sentimentale, romantique. En fait, on était dans une optique, en tout cas moi particulièrement, où les filles que je fréquentais ou que je voulais fréquenter, j'avais vraiment un crush pour elles, j'avais le béguin pour elles. Donc c'était plus cette idée de leur faire des bisous, leur prendre la main, éventuellement leur toucher le cul un peu s'il y a moyen, mais
La romance avant tout.
ouais, bien sûr,
Ok.
bien sûr. Donc je pense que l'aspect sexuel est arrivé plus tard, l'aspect purement sexuel.
Ok, par exemple, le premier bisou que tu as échangé avec une fille.
Ça, c'est arrivé assez tôt quand même. J'avais 13 ans, 13-14 ans, un truc dans le genre.
Et tu t'en souviens ?
Ouais, je m'en souviens assez bien. Ouais.
C'était nul.
On savait déjà pas utiliser nos bouches tout seul, donc la conjonction des deux était catastrophique. Mais je pense qu'il y avait la satisfaction de l'avoir fait, on était content. À cette époque, je pense tout le monde pensait que l'alpha et l'oméga du bisou, c'était la langue. Donc le maximum de mouvements possibles et imaginables.
Pas synchro du tout.
Ouais, pas synchro du tout, bien sûr.
C'était vraiment. Donc tu es au lycée, tu poursuis ces moments où tu as envie de romance, d'histoire. Il y a eu une histoire ? Des histoires ?
Platonique, essentiellement. Je suis sorti avec des filles, mais on. C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que à cette période au lycée, j'ai couché avec une fille en vacances.
Ah.
Mais toutes les filles que j'ai fréquentées, ça s'est arrêté au bisou. Quoi.
Ok.
Au bisou. Et
donc
un
tu
peu...
perds ta virginité en vacances.
Ouais.
Tu as quel âge ?
15.
Et ça se passe où en vacances ?
Dans son bungalow à elle. Moi, ma mère était en train de nettoyer le litre. Je voulais une destination.
Mais c'est bien aussi.
C'était à Palma.
Ok, et donc dans son bungalow, elle a ton âge à ce moment-là ?
Un peu plus âgée, elle a 16.
Ok, elle a 16 ans. Et
lui avais menti, je lui avais dit que j'avais 16 aussi.
Bon, ça va, c'est un petit mensonge. Et donc vous êtes dans son bungalow, donc c'est une fille avec qui tu flirtes, vous vous plaisez ?
Ouais, on s'entendait bien, on se plaisait bien, on s'est tourné autour pas mal de jours. Hein.
Oui, en vacances, il faut aller vite.
Ouais, mais tu sais que le temps est concentré en vacances.
Bien sûr, les émotions sont très fortes. Bien sûr. Et, ouais, évidemment. Et donc, vous êtes dans son bungalow et là, vous décidez de faire l'amour.
Je pourrais pas dire qu'on décide en fait. Le truc, c'est que c'est elle qui avait les clés de tout.
Du bungalow ?
Déjà. Déjà. Et puis le reste aussi en fait, parce que. Je pense clairement c'est une époque où moi j'ai pas le, je sais pas comment arriver à ça.
Okay.
Je sais pas comment arriver à ça et même d'une certaine façon quand bien même j'aurais envie d'y arriver, je me sentais zéro confiance, tu sais, pour le suggérer ou pour l'amener quoi.
Donc c'est elle qui prend la décision.
Exactement.
Et qui te guide et.
Oh, qui me guide. Bon, je pense que elle cherchait sa route aussi. Hein. Personne n'avait l'air d'être vraiment
en lead sur
au
le sujet.
Point par rapport à ça, ouais.
Et alors, c'est quoi le souvenir de cette première fois ?
Déjà une fille nue, quoi.
Ouais.
Une fille nue en vrai. Elle était bien faite, elle était douce. Elle était très jolie à regarder, j'étais assez content.
Mm-hmm.
Elle était peut-être trop jolie à regarder, vu le temps que ça a duré. Et c'est très très drôle parce que derrière, t'es là, il y a deux satisfactions. Enfin, il y a une satisfaction, c'est celle de, tu dis ouais, ok, cool, je l'ai fait, je vais pouvoir le dire aux gens.
Je vais pouvoir le dire aux copains.
C'est bon.
Okay, ça s'est fait.
Rayez-moi de la liste des tocards, maintenant c'est bon, je suis dans le game. Et il y a aussi cette idée de putain, ça a pas duré longtemps, j'espère qu'elle m'en tiendra par rigueur.
Ok, et ça s'est pas reproduit ? Sur la fin des vacances ?
Non, parce qu'on partait, je pense, le lendemain ou le surlendemain.
Ok.
Bon, après, je préfère garder ça comme idée plutôt que ma pauvre performance lui a pas donné envie de remettre le couvert. Non, mais vraiment, on repartait peu de temps après.
Et tu te rappelles de son prénom ?
Ouais. Johanna, elle s'appelait.
Ok.
Elle venait de Metz.
Johanna de Metz.
Ouais. Jamais t'as répondu à ma lettre, Johanna de Metz.
Ah, tu écrivais ?
Ouais, je lui ai écrit une lettre. Tu sais, c'était le game à l'époque. On s'échangeait les adresses et les numéros de téléphone fixes.
Exactement.
Donc, elle m'avait donné son adresse et je lui avais écrit une très jolie lettre juste en revenant de vacances.
Et Johanna n'a jamais répondu.
Elle n'a jamais répondu.
Donc, après cette première fois avec Johanna, ça marque le début de ta vie sexuelle. Donc, tu me dis qu'après au lycée, il ne s'est pas passé grand-chose. Mmh. Et après, comment ça repart ? Comment ça arrive dans ta vie ? Les études ?
Ouais, en fait, le truc qui était particulier, je pense, c'est qu'au lycée, déjà, on était trop en vase clos, avec une grosse mentalité de gamin, et chacun était en train de se rechercher lui-même et de voir son corps, en fait, évoluer. Donc, c'était pas propice à ça, en fait. sachant qu'on n'avait pas tous les moyens qu'on peut avoir aujourd'hui, les réseaux sociaux, les téléphones portables, ce genre de trucs. Mmh. Donc techniquement, si tu voulais avoir une interaction avec une fille, il fallait aller l'aborder.
En étant frontal.
Exactement. Et pour peu que ce soit pas une meuf de ta classe, il fallait l'aborder dans la cour.
Devant
Moi, mon lycée
public.
Était énorme, 1000 personnes.
Ah oui.
Ouais, c'est-à-dire le moment où tu pars, les gens sont déjà, tu sais, en train de bouffer le pop-corn et de souhaiter ta perte.
Tu étais au lycée au Maghreb ?
Non, j'étais
en Afrique.
À Lille.
Tu commences tes études ? Mm-hmm. À Lille ?
À Lille, tout à fait. Ouais.
Ok. Et c'est là où tu commences. Enfin, tu commences, j'avais commencé, mais c'est là où les relations avec les filles deviennent un petit peu plus fluides ?
Ouais, bien sûr. Parce que déjà, c'est. Les filles avaient pris une maturité, je parle en règle générale, mais je pense que ça a beau être empirique, peu de gens vont me mettre en doute ce que je dis. Les filles arrivaient déjà avec une maturité supérieure à la nôtre. Tu vois, donc c'était un peu l'époque où les filles à qui tu plaisais s'arrangeaient pour te le faire comprendre ou te le montrer.
C'était plus évident.
Exactement, ouais. Et à partir de là, tu sais, j'avais l'impression de m'être débarrassé de la partie de lycée et de ne plus avoir ce groupe-là autour de moi, le groupe avec qui j'étais au lycée. C'est que j'avais l'impression d'être une nouvelle personne et de pouvoir me déterminer comme je voulais.
Okay.
Et donc, ça a facilité énormément de choses.
Et donc, comment ça se concrétise ?
Du sexe.
Du sexe.
Du sexe.
Beaucoup de sexe.
Pas des masses, mais c'était déjà bien pour moi.
Ok. Et alors là,
Tu passes de rien à une meuf.
C'est déjà
un progrès de ouf.
100%, c'est pas mal. Mais donc t'as vu cette expérience avec un peu rapide avec Johanna. Et donc comment ça se passe après tes premiers rapports sexuels?
Beaucoup mieux.
Beaucoup mieux.
Beaucoup mieux, ouais. Beaucoup mieux déjà parce que je pense que je me sentais plus à l'aise. Et
toi-même.
Ouais, et puis le gap en fait entre Johanna et la meuf suivante avait fait que j'avais pu bien réfléchir à ce qui fait que
au scénario.
Exactement, je suis le genre de mec qui apprend de ses erreurs et j'ai eu tout le loisir d'y réfléchir plutôt pas mal.
Est-ce que tu t'es nourri de pornographie, de choses comme ça pour justement t'éduquer un peu à tout ça ?
Ouais, bien sûr. Bien sûr. Enfin là ça commençait justement à être l'époque où on commençait à avoir bien Internet et effectivement, ça a ouvert tout un monde et un rapport aux filles qu'on ne pouvait pas avoir quand on était plus jeune ou quand la technologie était moins avancée.
Et le porno dans ta vie avait une place importante ? C'était récréatif ? C'était instructif ? Comment tu l'as appréhendé ?
Je dirais pas instructif, plus récréatif en fait. Le truc, c'est que je pense que les filles m'ont toujours plu. J'ai toujours trouvé une grande beauté dans le corps des femmes. Et c'est justement la première fois qu'on est dans un cas de figure où tu y as accès. Où tu peux voir plein de femmes nues.
Ok. Donc, pourquoi s'en priver ?
Ouais, exactement. Enfin, sauf si quelqu'un avait besoin de l'ordinateur, mais...
Globalement.
Ça allait.
Et donc, tous ces corps nus, c'était la recherche, c'était regarder des nanas à poil, c'était apprendre des choses, c'était regarder l'acte sexuel en lui-même. Qu'est-ce que tu allais chercher ? Comment tu allais le chercher ? Comment tu le consommais ?
Je sais pas si c'était aussi réfléchi. Je pense pas, en fait. Je pense que c'était juste...
Accessible.
Accessible, et j'avais envie de le faire. Et les filles étaient jolies, donc très bien, quoi.
Okay.
Tu vois, je pense, pour moi, ce serait compliqué de te dire oui, chercher à apprendre telle et telle chose sur l'anatomie ou sur la pratique, pas du tout.
Ok.
Ouais, c'était une branlette.
Classique.
Classique.
Non, mais au moins, voilà, il y a une causalité du tout. C'est pourquoi tu y es.
Exactement.
Après ces moments-là, donc il se passe des rapports sexuels avec des vraies filles dans la vraie vie, mm-hmm. qui prend goût.
Ouais. Je trouve ça chouette.
C'est chouette. Mmh. Tu as beaucoup d'histoires à ce moment-là ? On parle d'histoires, on parle de petites amies, on parle de quoi ?
Un peu des deux, en fait. J'ai fréquenté deux ou trois filles comme ça. C'est-à-dire dont une en particulier, en fait. C'était juste un truc comme ça parce qu'elle avait un copain à côté et elle m'aimait bien.
Et vous aviez couché ensemble?
Ouais. Pratiquement malgré moi. Ouais, c'est-à-dire que quand je me rappelle cette histoire, je me rappelle de cette fois où une meuf m'a piégé pour aller chez elle. Elle m'avait proposé des spéculoos.
Donc t'es le mec
Histoire vraie, histoire vraie.
Ok, elle t'a piégé en te proposant des spéculoos. Ok, donc maintenant tu fais gaffe.
Ah, bien sûr.
Attention.
C'est la première question que je pose à une meuf en soirée. T'aimes bien les spéculoos? T'en as à la maison?
Et d'accord, et tu rentres chez elle pour manger les spéculoos?
Ouais, enfin, genre vraiment, comme si de rien n'était. On arrive et à un moment, on va dans sa chambre et on écoute de la musique. Et je sais pas pourquoi elle se change et elle se met en nuisette alors qu'il devait être genre 19h.
Ok.
Ouais, et tu vois à quel point, genre, j'étais pas
Ouais.
très, très précis dans ce genre de choses. C'est-à-dire, j'étais là en train de me dire, ah d'accord, ok, elle se met en nuisette, les spéculoos sont bons, j'aime bien la musique, et je vais lui raconter des trucs. Et c'est genre vraiment le moment où c'est devenu sexuel que je me suis dit, ah, ça
Ah,
devient sexuel.
mec de l'instant présent.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Pas de...
Mais c'est dire aussi à quel point j'étais pas très. Ça m'intéressait, mais je manœuvrais pas pour y arriver, quoi.
Tu te considérais pas comme un séducteur?
Non. Non. Très compliqué de se considérer un séducteur. Genre, t'as séduit deux meufs, t'es un séducteur. Tu tapes le ballon en bas de la cité, dans le City Stade, tu te prends pour un pro, non?
Tu as des petites
Même,
amies.
c'était même pour moi, tu sais, une sorte de surprise de se dire, ah
Ouais.
tiens, en fait.
Ok.
Je lui ai plu,
Je
je
peux
lui ai plu.
intéresser. Je peux intéresser comme ça. Et en plus, la fille a un gars, un mec.
Ouais. Mais pour sa défense, son mec avait aussi une meuf.
Ah oui, on était sur un polyamour.
Ouais, incroyable.
Ok.
Incroyable.
Un couple libre.
Sans que l'un ou l'autre ne se le dise, mais c'était ça dans les fêtes, en fait.
Ok.
C'est-à-dire que elle l'aimait, elle considérait que c'était son mec. Lui avait une autre copine, mais je sais pas à laquelle des deux il disait qu'il allait quitter l'autre pour se mettre
Peut-être les
avec
deux,
elle.
tu sais.
C'est possible, c'est possible. Et donc, d'une certaine façon, en y allant, j'avais pas particulièrement mauvaise conscience, quoi.
Ok,
Voilà, je
d'accord.
me disais, dans le grand ordre des choses, un jour je dois aller en enfer, ce sera pas pour ça.
C'est petite boîte.
Ouais, exactement.
D'accord, tu as ces relations. Donc, il y a une histoire qui se crée à un moment donné dans cette période-là, une vraie histoire d'amour, si on en parle, parce qu'on n'a
Ouais.
pas parlé encore
Bah, en fait,
d'histoire d'amour.
justement, c'est ça qui est assez fou, c'est que ensuite, j'ai enchaîné trois relations sérieuses.
Ok. La première, t'as quel âge?
19.
19 ans, tu vas rester combien de temps avec elle?
6 mois.
D'accord, ta première histoire d'amour.
Ma première histoire d'amour.
Et donc là, cette fille, tu la rencontres.
Ouais, je la rencontre. Elle était la classe en dessous de moi, en fait.
Donc là, tu fais tes études.
Ouais.
Et coup de foudre ou ça se... C'est une histoire qui se construit avec le temps.
C'était compliqué, en fait. Le truc, c'est que j'avais l'impression qu'elle m'aimait bien. Moi, c'était clair et net que je l'aimais bien. Mais elle me laissait jamais l'opportunité de. Donc il a fallu vraiment que je profite de chaque interaction qu'on pouvait avoir. Déjà, il fallait pas que je me fasse griller par les autres.
Ok.
Parce que je voulais pas être dans la situation où mon intérêt pour elle était trop visible et qu'ensuite, si ça marche pas, ça me revienne sur la gueule. En gros, je voulais mener ma barque en douce. Et c'est exactement ce que j'ai très bien fait.
Donc là, t'as manœuvré pour le coup.
Ouais, j'ai bien manœuvré. J'ai bien manœuvré. C'est-à-dire, c'est le genre de situation où tu te retrouves dans la cour, à la récré. Lol. Et tu t'incrustes dans une conversation, ou alors vous vous retrouvez à l'entrée de l'école et tu la croises, tu presses le pas, ou alors tu l'as vue arriver, tu traînailles un peu le temps qu'elle te rejoigne, ce genre de choses. Et en fait, on a fini par décider qu'on était ensemble une fois que elle s'était barrée en vacances.
Ok.
C'est-à-dire que c'était littéralement une séduction épistolaire.
Et vous êtes après donc écrit énormément.
Ouais, c'était l'époque justement, tu sais, du texto. C'était le
texto.
Ouais, c'était le texto game.
Sur les 3310 et compagnie.
Exactement. Et j'étais les super meilleurs. Fort là-dedans.
Ouais.
Surtout que c'était une fille qui adorait lire, c'était très intelligente, très cultivée, et elle aimait bien ma façon d'écrire.
C'est ton truc, l'écriture ?
J'aime bien ça.
Et c'est comme ça que tu séduis ?
Non, maintenant c'est terminé.
Maintenant c'est terminé, ouais, mais t'as beaucoup usé de l'écriture ?
Ouais, bien sûr, à une époque ça avait vraiment du sens, tu sais, à l'époque des mails et à l'époque des textos. Enfin, il restait encore quelque chose d'un peu antique dans l'écriture et dans le rapport à la séduction. Là, je le vois de moins en moins.
Ok. Et donc, vous avez cette relation pendant 6 mois, donc ta première histoire d'amour.
Mm-hmm.
Le sexe avec elle, c'était comment ?
C'était très chouette.
Parce que des rapports sexuels avec de l'amour, c'est quand même un peu différent. C'est plus fort.
C'était fort parce que cette fille, j'avais un truc vraiment particulier pour elle. C'est-à-dire que si je réfléchis maintenant avec tout ce recul et tout, c'était pas fantastique en soi. Mais juste le faire avec cette fille-là, être nu avec elle... Même, on avait un truc qui était assez incroyable, c'est qu'une fois qu'on avait fini, on avait un truc qu'on appelait la position parfaite. C'est la façon dont elle venait me faire un câlin. Et rien que ça, c'était un souvenir incroyable. C'est-à-dire, j'aurais du mal, tu sais, à différencier la partie sexuelle de tout le reste. Tellement ça semblait être un tout.
Ok. Et pourquoi vous êtes séparés ?
Parce que c'était une connasse.
Réponse... Incroyable.
Non, plus sérieusement, elle m'a largué parce qu'elle elle le sentait pas.
Elle le sentait pas votre histoire, elle le sentait pas votre avenir, elle le sentait pas quoi ?
On en a rediscuté il y a quelques années, elle m'a dit écoute, j'avais tellement de difficultés à m'accepter moi-même que je pensais que tu te foutais de ma gueule quand tu me disais que...
Elle avait 18-19 ans.
18 aussi.
Ouais, ouais.
Et elle me disait, je pensais pas qu'un type comme toi pouvait s'intéresser à moi, donc je pensais que c'était une blague et que t'étais avec moi que pour le sexe. Et j'étais là genre ouais d'accord pour les 6 fois où on l'a fait.
Ok. Et vous êtes jamais dit, puisque tu vous en avais parlé il y a quelques années, il n'y a pas eu un revival en se disant bah, peut-être que maintenant qu'on est des adultes on essaie de se revoir?
Non. Quelques années après on s'est revus, on a couché ensemble 2 ou 3 fois, mais c'était plus une sorte de solde de tout compte, tu vois.
Ok, je comprends. C'est bien de terminer les histoires avec le solde de tout
compte,
c'est propre.
Exactement, parce que clairement, aujourd'hui, je pense que je suis pas le genre de type qui lui irait c'est pas le genre de meuf
que tu recherches.
Que je recherche, et il y a mille et une raisons pour lesquelles ça marcherait pas, mais c'était très chouette à ce moment-là.
Donc ça, c'est ta grande première histoire d'amour,
ouais.
Et après, tu dis que tu en as enchaîné...
Quelques mois après, je suis retombé sur une fille qui était... très chouette aussi, et on a passé 1 an ensemble.
Ok, 1 an. Et belle histoire aussi.
Justement, pour le coup, belle histoire, mais sexuellement très frustrante.
Pour toi, pour elle ?
Pour moi.
Parce qu'elle
s'imposait des limites, et je pense que de toute façon, elle avait des limites mentales par rapport à ça. Qui était difficilement dépassable.
D'éducation, tu veux dire ? Des tabous ?
Je saurais pas te dire précisément. Peut-être d'éducation, peut-être personnel, peut-être culturel, j'en sais rien.
Concrètement, c'était quoi ? C'était un sexe qui était plutôt...
Très pudique. Pour te donner un exemple, en fait... C'est peut-être la seule fille avec qui j'ai jamais couché, amoureuse ou pas... qui me bloquait quand j'étais un peu trop dynamique en me disant fais-moi l'amour avec amour.
D'accord.
Donc ça limitait complètement la vitesse entre guillemets ou l'intensité, et au niveau des positions c'était particulier parce qu'elle considérait que certaines positions étaient des positions amoureuses et d'autres étaient des positions de baise.
D'accord. Et on pouvait pas baiser en s'aimant.
Exactement. Ou alors, y avait des positions qui étaient des positions qu'on faisait à la personne qu'on aime et d'autres qu'on faisait aux autres. Ce qui était assez, assez ridicule.
Oui.
Mais enfin, à l'époque, je pense que dans son référentiel, ça se tenait.
D'accord, donc un an avec, avec cette fille, vous vous quittez.
Ouais. Et ensuite, quasi immédiatement, je me remets avec une autre fille.
D'accord, et là, c'est la troisième histoire d'amour. Donc ça, c'est pendant tes études, tu as toujours été avec des nanas.
Toujours avec des filles.
Et donc, cette troisième histoire, ça dure combien de
temps ?
Trois ans, donc là, on est six mois, bien sûr. Trois ans.
Ouais, c'est ça, c'est le progrès.
Et donc, c'est 3 ans avec cette jeune femme ?
Pour le coup, un sommet sentimental et sexuel.
Donc, elle a combiné parfaitement.
Ouais, exactement. Exactement.
Et donc, ça a été une histoire...
Bah, c'était une révélation, en fait. Parce que c'est la première période dans ma vie où il y a eu, justement, une forme d'absence de pudeur. C'est-à-dire que très, très rapidement, on s'est retrouvés très à l'aise l'un avec l'autre. Et sexuellement, ça marchait très, très bien. Et on avait une vie sexuelle qui était très, très constante, très régulière. En fait, c'est littéralement la première fois de ma vie où j'ai couché très, très souvent avec quelqu'un que j'aimais beaucoup.
D'accord. Et donc, vous avez appris à vous connaître. Et,
exactement.
Et chacun se connaissait à travers les yeux de l'autre. Mm-hmm. T'as appris beaucoup avec elle ?
Ouais, pas mal. Le truc, c'est qu'à la différence des deux précédentes, c'était une fille qui était restée 5 ans avec un garçon avant de se mettre avec moi.
Ok.
Donc déjà, plus d'expérience, plus de confiance en elle, un rapport qui était beaucoup plus à l'aise avec elle-même.
D'accord, et ça a permis justement d'avoir cette sexualité plus épanouie, plus adulte ?
Mmh, tout à fait.
Et d'essayer plein de choses ? Ou pas ?
Si. Ouais, plus qu'avec la précédente, tu t'en doutes.
Oui, là, c'était... Ok. Vous restez 3 ans ensemble, vous quittez. Douloureux ?
Ouais, très douloureux.
Très douloureux. C'est elle qui t'a quitté ? C'est toi qui l'as quitté ?
On ne s'entendait plus, en fait. Mmh. Ça ne marchait plus. C'est justement une histoire qui a duré 3 ans parce qu'on a essayé de la faire durer le plus longtemps possible.
Et quand le rythme était un peu moins, justement, vous êtes quitté.
Ouais, exactement. C'est-à-dire, il arrivait un moment, en fait, où clairement, ça devenait trop compliqué pour l'un et pour l'autre. Et même, tu sentais, tu sais, que le sentiment amoureux était passé, quoi. C'est-à-dire, il restait de l'amour.
De l'amour.
Mais on n'était plus amoureux, exactement.
T'as quel âge à ce moment-là ?
23.
23 ?
23-24.
Ok, 23-24. Tu termines tes études ?
Mm-hmm.
Tu arrives à Paris ?
Tout à fait.
Et qu'est-ce qui se passe là ?
Bah, le célibat.
Le célibat. C'est vrai le que célibat. Ouais, t'aurais été resté longtemps avec des filles. Et donc là, c'est le célibat.
Exactement. Et le célibat dans une optique à laquelle je ne m'attendais absolument pas. En fait, j'ai l'impression, et je ne sais pas si c'est le monde qui a changé à cette période-là ou si c'est moi qui, étant dans mes relations amoureuses, n'avais pas vu le vent tourner ou ce genre de truc, mais une sorte de libération sexuelle assez incroyable.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que ça a été un été assez, assez fou. Assez fou. C'est-à-dire que c'est les premières fois de ma vie où je sortais quelque part et je rencontrais une fille et je la ramenais à la maison.
En toute simplicité.
Ouais, en toute décontraction, bien sûr.
Et là, ça se passait comment ? Simplement, t'étais à l'aise avec ça ? T'étais à l'aise avec toi ?
Ça dépend, ça dépend. Parce que justement, j'avais beau être à l'aise avec moi-même, j'étais aussi triste de ma séparation. Ce qui fait que je pense que j'avais moins envie de sexe qu'envie de plaire. Mmh. Et ça m'a mis dans une situation en fait où j'ai eu du mal un peu à concilier, tu sais, tout ça, quoi. Le fait de coucher avec plein de filles, enfin, et j'avais l'impression d'avoir, tu sais, de faire un pas en avant. Deux pas en arrière.
Quand tu dis plein de filles, t'as couché avec beaucoup de filles à ce moment-là ?
Ouais.
Genre, elles rentrent dans la pièce ou pas ? Toutes, si on les invite.
Ouais, bien sûr. Les locaux sont immenses.
C'est ça. Faut préciser. C'est une grande surface. Ok, donc tu multiplies les partenaires. Tu fais des trucs un peu dingues ou tu restes dans une sexualité classique, normée, dont on parlait tout à l'heure.
J'ai fait quelques trucs un peu foufou qui, bon, à l'époque semblaient foufou. Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu le CP du sexe. La période qu'on vit.
C'est vrai.
Mais j'ai fait un truc avec un garçon, une fille et deux filles.
Un garçon, une fille. Alors attends, on n'est pas sur.
Non, ouais.
En deux fois.
Ouais.
J'ai cru qu'il y avait beaucoup de
non,
monde.
Si,
c'est écoute, compliqué pour les prénoms après.
Je sais compter, hein, j'aurais dit un six somme.
D'accord, donc tu as fait un plan 3 avec un garçon et une fille et un plan à 3 avec deux filles.
Ouais.
Alors ça, c'est une vraie question parce que moi, il y a la team, je parle des hommes, hein, y a la team des mecs qui préfèrent un garçon, une fille parce qu'ils partent du principe qu'ils ne seront pas satisfaits de nana et donc du coup, ils préfèrent être deux hommes avec une nana pour lui donner un max de plaisir. Et il y a la team des garçons qui préfèrent deux nanas parce qu'ils se sentent plus à l'aise dans ce triolisme. Toi qui as fait les deux, ça donne quoi ?
Bon, j'ai fait les deux et c'était pas, c'est pas un truc où j'ai une expérience incroyable. Mais pour être tout à fait honnête, je pense que les deux sont des modèles complètement valables à partir du moment où les participants sont les bons.
Okay.
C'est-à-dire, effectivement, un mec pour deux meufs, s'il n'y a aucune alchimie, aucune interaction avec les filles et que les filles ne s'attirent pas entre elles ou n'aiment pas les filles, c'est catastrophique.
Ça devient compliqué.
C'est très compliqué, effectivement. C'est-à-dire que les gens ont tendance à voir ça comme le bonhomme qui serait une sorte de d'Apollon exceptionnel et qui pourrait faire plaisir aux deux meufs, là où pour moi, c'est genre vraiment trois personnes. Qui interagissent entre elles.
Ok. Et c'est pas valable quand c'est deux garçons ?
Bon, déjà, pas d'interaction particulière avec le garçon. Après, je pense que la fille avec deux mecs, elle a l'air de bien aimer ça.
Elle a l'air d'être contente.
Ouais.
Ok. C'était des fantasmes ou ça s'est fait
Ça s'est fait. Enfin, le truc des deux meufs, oui, c'était un fantasme. Mais la façon dont ça s'est fait, c'était très naturel et très sympathique. Mais clairement, une fois que ça s'est fait, ça n'a plus jamais été un truc que j'ai recherché ou quoi.
Okay. Tu vois,
et justement, c'était l'époque où de très bons amis à moi se tournaient vers une sexualité un peu plus débridée. Tu sais, les clubs échangistes, ce genre de choses. Et j'ai jamais suivi parce que j'ai jamais été particulièrement intéressé.
D'accord. Donc c'est le hasard des rencontres qui a fait que...
Exactement. Et l'aspect fantasme me dérange pas en soi. J'aime bien que des choses qui soient des vues de l'esprit le reste.
D'accord. Donc ça, c'est un peu les trucs foufous que t'as fait.
Ouais.
D'accord. Donc tu es à ce moment-là dans cette période de célibat actif. Tu rencontres beaucoup de filles. Tu les rencontres comment ? Donc en soirée, tu disais ?
En soirée. Essentiellement en soirée.
Pas les sites de rencontres, pas
non.
Les applications.
Jamais aimé ça.
Parce que
Parce que à cette époque-là, bah, j'en avais pas particulièrement besoin.
Tu sortais beaucoup ?
Ouais, je sortais beaucoup. Et j'ai... rappelle-toi quand même ce que je t'ai raconté tout à l'heure sur le garçon là, que j'étais, le rapport à la romance, ce genre de truc. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait un truc un peu mécanique dans les sites de rencontres. Qui enlevait un peu de la magie du truc. Tu vois, j'aimais bien avoir cette idée de plaire à quelqu'un qui était un inconnu complet et avoir l'impression, tu sais, que je menais ma voix, elle menait sa voix et d'une certaine façon, nos chemins se sont entrechoqués et ça créait un nouveau chemin par le plus grand des hasards. Là où les sites me donnaient l'impression, tu sais, de forcer quelque chose, quoi. Et c'est devenu bien pire avec l'avènement des Tinder et autres applications où c'est devenu littéralement une sorte d'entretien d'embauche de l'amour, quoi.
Du sexe.
Mmh. Aussi.
De l'amour. Hein.
Aussi. Bah, je crois qu'il y a quand même des meufs qui veulent embaucher des amoureux.
Oui.
Mais les postes.
Mais
sont
ça commence quand même. On est enfin sur une évaluation d'un potentiel.
Ouais, bien sûr.
Tu vois. On parle juste de traits physiques à ce moment-là.
Exactement, de traits physiques et de quelques éléments qui sont notifiés. Et ça, pour moi, ça annule justement tout le côté un peu émotionnel, tu sais, de des rencontres. C'est-à-dire que t'es en train de te bloquer par rapport à des gens qui auraient complètement pu te plaire dans un contexte donné. Et tu vas t'acharner à apprécier des gens parce que les critères qu'ils ont mis te correspondent dans la tête, quoi.
Et justement, t'as un type de fille, toi, t'as des critères. Qu'est-ce qui te séduit chez une femme ?
Il faut qu'elle me plaise. Il faut que je la trouve jolie.
Jolie.
Ouais. Et ça, c'est aussi une chose dont je me suis rendu compte ces dernières années. C'est qu'en fait, elle a juste besoin de me plaire à moi. Okay. Là où, pendant un certain temps, j'avais les critères que la société de consommation nous donne sur ce que doit être une femme et quelles sont les formes de beauté et autres, je me suis aperçu pendant justement cette période un peu débridée qui était la mienne que plein de filles me plaisaient, elles étaient différentes.
Donc t'as pas de type de fille ?
Oh, j'ai toujours un petit faible pour les jolies brunes.
Ok.
Mais c'est tellement une catégorie fourre-tout.
C'est ça. Puis t'es pas au hasard de lui mettre une belle blonde dedans ou...
Non, oui, bien sûr.
Mais elles ont quoi comme point commun, toutes ces filles qui ont partagé ton lit ?
Tu veux dire au-delà d'un vagin ?
Ouais, au-delà d'un vagin. Y a rien. Elles ont toutes été très différentes ?
Ouais. Ouais, parce qu'en plus, c'est difficile de comparer, tu sais, entre la fille qui est passé un soir comme ça et qui a disparu et des filles que j'ai vues pendant longtemps, enfin...
Je comprends.
Je pense juste à un moment, elles me plaisaient.
Elles te plaisaient. Mmh. Et tu leur plaisais, du coup.
Ouais. Ouais.
Cette période-là, elle a duré combien de temps ?
3 ans.
3 ans. Et après ?
À nouveau amoureux.
Une belle histoire ?
Mmh, ouais.
Qui a duré combien de temps ?
4 ans.
4 ans.
On progresse à chaque fois.
Oui, on va arriver sur une décennie à un moment donné. Ok, donc c'est une histoire qui dure 4 ans avec cette jeune femme que tu rencontres
en soirée.
Et là, c'est une histoire d'adulte, j'imagine.
Oui et non. Oui et non.
Pourquoi oui et non ?
Oui, parce que... Parce que je pense que moi, là, j'avais atteint une certaine forme de maturité. Et toutes les erreurs que j'avais faites avec les filles précédentes, je ne les ai plus faites.
Pas avec elles ?
Pas avec elles.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu dis non quand je te dis que c'est une histoire d'adulte ? Tu dis oui et non.
Parce que d'un autre côté, il y avait quelque chose de très adolescent aussi. C'était genre une forme de fairy tale.
Dans votre histoire ?
Ouais. La façon dont on s'est rencontrés, ensuite comment les sentiments se sont mis très très vite en place et du jour au lendemain on s'est mis à habiter ensemble.
C'est la première fois que tu vivais avec une femme ?
Non, j'avais vécu avec la précédente les derniers mois de notre relation. C'est-à-dire justement on a vécu ensemble juste ce qu'il faut pour savoir que c'était terminé.
Oui, je comprends.
Mais d'un autre côté, justement, il y avait énormément de choses qui étaient tues par rapport à cette fille avec qui je suis resté 4 ans. C'est pour ça que je te dis que c'était pas complètement une relation d'adulte, dans le sens où je pense que pendant longtemps, l'un et l'autre, on essayait de se conformer justement à cette image exceptionnelle qu'on pouvait avoir l'un envers l'autre. Et les choses qui n'allaient pas entre nous... C'est des choses qu'il était très compliqué, enfin, on n'arrivait pas à en discuter.
Vous avez cristallisé une forme d'amour l'un envers l'autre qui empêchait de quoi d'évoluer, de se parler, de communiquer. Vous aviez peur de vous faire mal ?
Je pense un peu de ça et aussi forcément une forme d'immaturité. Tu vois, quand je te dis que toutes les erreurs que j'avais faites avec les précédentes, je ne les ai pas faites avec elles, il manquait justement les choses qui font qu'une relation devient une vraie relation d'adulte. Et c'est ce cap-là que j'ai pas su atteindre. Tu vois, genre avant, dans tes relations post-adolescentes, t'es encore dans cette situation où tu peux avoir des jalousies un peu merdiques, ou par bêtise ou inadvertance, tu prends pas en compte les sentiments de la personne et vous retrouvez dans des embrouilles un peu merdiques. Ça, là-dessus, on était ultra serein. jamais eu la moindre crise de jalousie avec elle. C'était même assez exceptionnel. On allait en soirée ensemble et moi j'aime bien discuter avec les gens en soirée. Et elle discutait avec des mecs, je discutais avec des meufs. Et de temps en temps, quand elle voyait qu'il y avait une meuf qui était un peu intéressée ou autre, elle venait se signaler. Et je disais, hey, salut, tiens, je te présente ma chérie qui est un tel. Elle discutait une minute et ensuite elle se barrait, quoi. Donc, mais derrière, justement, tu sais, quand tu passes un certain temps avec quelqu'un, il y a aussi ce qui fait que les relations dur, c'est cette capacité à évoluer ensemble. Et justement, le moment où on a commencé à évoluer, on a évolué différemment et on n'en a pas discuté.
Vous êtes perdu de vue, vous avez perdu votre intérêt commun pour la relation. Comment ça s'est concrétisé? T'arrives aujourd'hui, parce que ça fait combien de temps que vous êtes séparés?
3 ans.
Donc en 3 ans, t'as réussi
un peu plus. Bientôt 4 ans.
Ouais. T'as réussi à définir ça?
Ouais, je pense une forme d'immaturité de part et d'autre.
Et
j'étais aussi son premier copain très sérieux.
D'accord. Et le sexe avec elle, est-ce que c'était au reflet de votre relation? Il y avait une forme d'immaturité aussi, ou pour le coup c'était des relations sexuelles d'adultes, même si c'est hyper difficile de qualifier
ça. C'est dur
ça,
de répondre à ça.
Tu peux juste me dire si c'était chouette ou si c'était...
C'était chouette, mais c'était limité par rapport à ce que j'avais pu faire avant ou ce que j'avais pu faire après. Il y avait des choses qu'elle aimait pas trop.
Ah, t'as eu 3 ans,
ouais.
Un peu rock'n'roll.
Ouais, bien sûr. Ah, j'ai eu 3 ans, c'était Woodstock. Et justement, le truc, c'est que j'aimais tellement cette fille que je pouvais complètement me passer de ce genre de choses.
Alors là, je vais te poser une question, parce que 4 ans, c'est quand même c'est une vraie relation. Mmh. Vous arriviez à, justement, ce que le désir soit intact, à faire l'amour régulièrement, avoir des rapports qui vous comblaient l'un et l'autre, et que ce soit dans la dynamique, la fréquence, etc.
Tant que ça allait bien, ouais. Ensuite, il y a eu une période vers la fin où, quand ça s'est délité, tout s'est délité, en fait.
Ouais, ça va souvent ensemble, hein. Mmh. D'accord. Donc
Et vers la fin, il y a eu une période de plusieurs mois où on n'a pas couché ensemble.
Et vous n'en parliez pas?
Non, c'était tu. Parce que justement, c'est ce que je te disais par rapport au fait que c'était un peu une relation pas totalement adulte.
Ouais.
C'est que on pensait que c'était le genre de choses qui se remettrait en place de lui-même quand les choses iraient mieux.
Et non.
Et non.
Donc vous vous quittez?
Non, on se quitte, ouais.
Voilà, ça c'était il y a 3-4 ans.
Mm-hmm.
Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie?
Ah, j'ai l'impression de revivre 2008.
Donc là, c'est reparti.
Ouais.
Et t'en es encore là? Aujourd'hui? À 33 ans?
Je sais pas comment répondre à cette question. Oui et non. Oui et non, dans le sens où... contrairement à cette époque-là, tu vois, déjà, je sors beaucoup moins. J'ai plus spécialement envie et j'ai plus envie de me taper des meufs comme ça, en fait.
T'as envie de quoi?
Je sais pas. Le truc, c'est que ces derniers temps, tu sais, j'ai fréquenté des filles. Je peux pas dire que j'ai eu une relation amoureuse, encore qu'il y en a une avec qui clairement il y avait de l'amour. Mais c'est la première fois que je me retrouve dans des situations où des filles, je les vois très longtemps, genre plusieurs mois. Et quand on se voit, on a pratiquement une sorte de rapport de couple. C'est-à-dire, on fait des trucs ensemble et
c'est pas que du sexe.
Exactement. De toute façon, j'ai jamais été le mec à avoir des plans cul. Ça allait... Je préfère voir des potes, en fait. Parce qu'il y a toujours un truc qui m'a gêné dans le sexe. En tout cas, cette sorte de sexe-là, c'est l'avant et l'après.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que je peux pas coucher avec quelqu'un avec qui j'ai pas envie de discuter, avec qui j'ai pas envie de squatter, avec qui j'ai pas envie de rester une fois que l'acte est terminé.
D'accord.
Ça me stresse.
Donc t'es pas le genre de garçon à demander à la jeune fille de partir pour dormir ailleurs?
Non.
Et juste de venir?
Je suis même le genre de garçon qui prend sur lui parfois quand c'est terminé, qui se rend compte qu'il voulait pas qu'elle vienne.
Ah, c'est arrivé?
Ouais.
Des filles qui sont venues? Tu passes un moment avec elle, vous couchez ensemble et tu regrettes?
Ouais.
Ah oui.
Ah, c'est arrivé, ouais. Très peu de fois. Une fois ou deux, grand max. Mais
Et qu'est-ce qui fait que tu regrettais? C'est que l'acte en lui-même était pas chouette, ou c'est la personne en elle-même, finalement, tu t'étais un peu trompé sur elle? Qu'est-ce qui s'est passé?
très personnel, sans jugement de valeur sur la fille ou quoi que ce soit. Je pense simplement que j'en avais pas envie.
Et t'as été poli et tu lui as dit de venir. Du coup.
Ouais, surtout je l'ai laissé rester. Ouais, donc dès que ça m'est arrivé, ça en fait, je me suis dit ouais, en fait, j'aime pas ça du tout. Donc quitte à coucher avec quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un que j'apprécie sincèrement, quoi.
Je comprends.
Tu vois, parce que il y a peu de sentiments qui sont aussi vides pour un mec, je pense, que quand tu viens de finir de coucher avec quelqu'un et tu te dis putain, mais vivement qu'elle s'en aille, quoi.
Donc aujourd'hui, comme tu disais, tu revis cette période-là un peu Woodstock, mais différemment.
Ouais, différemment.
Et tu as envie de quoi aujourd'hui?
J'en sais rien, en fait.
Une histoire?
J'en sais rien.
T'en
Le
sais
truc,
rien.
c'est que c'est aussi pour ça que je te disais que ma relation précédente était un peu, d'une certaine façon, ma dernière relation adolescente. Parce que, entre-temps, mon rapport même, tu sais, au couple, à la monogamie, au mariage, à tout ça, a complètement volé en éclats. Je pense que ces dernières années, c'est justement les années où j'ai commencé à avoir un recul critique énorme sur toutes les injonctions sociales qui nous sont faites. Sur nous-mêmes, sur notre sexualité, sur notre rapport au corps, sur notre rapport à la famille.
Tu peux développer un petit peu ça?
En fait, on vient tous, on est à peu près de la même génération, toi et moi, on vient tous d'un milieu où justement la réussite amoureuse, l'alpha et l'oméga de la société, c'est le mariage, des enfants. Et ils restent ensemble jusqu'au bout. Et c'est un modèle pour qui j'ai énormément d'estime. Moi, mes deux grands-parents, enfin, les deux couples de chaque côté, ont été des modèles d'amour et de patience et de solidarité les uns envers les autres. Malgré tout ce qu'on peut penser du modèle patriarcal qui était le nôtre, c'était peut-être vrai sur la forme, mais dans le fond, ils étaient plus partenaires qu'autre chose. Et les deux sont restés plus d'une cinquantaine d'années ensemble. Enfin, les quatre sont restés plus d'une cinquantaine d'années ensemble. Mais d'un autre côté, ces gens-là n'étaient pas exposés aux mêmes choses auxquelles j'ai été exposé. C'est-à-dire que dans un cadre comme dans l'autre, ben, c'était la première fille qu'ils voyaient, le premier garçon qu'ils voyaient. Et ils vivaient dans une époque où justement c'était la norme. Donc il fallait faire réussir son couple parce qu'il n'y avait pas d'alternative à ça. Je pense qu'ils étaient très très heureux d'avoir ça, mais je ne sais pas à quel point ils ont eu leurs envies ou tout un paquet de choses qui nous semblent basiques quand on réfléchit à soi-même et aux relations amoureuses, sexuelles, ce genre de trucs. Et je me rends compte maintenant d'une chose, c'est que c'est très très compliqué de reproduire ce modèle-là, voire impossible.
Donc c'est difficile pour toi d'imaginer qu'on peut aimer la même personne pendant des années?
Non, c'est pas ça qui est difficile. Je pense qu'on peut clairement aimer la même personne pendant des années.
Mais rester avec?
Ça, déjà, ça me semble plus
En
compliqué.
étant fidèle?
Ça me semble impossible. Ça me semble impossible.
Donc la fidélité de corps, tu n'y crois pas?
Si, j'y crois, parce qu'il doit probablement y avoir des êtres qui sont doués d'une volonté exceptionnelle ou fou amoureux ou peu sexuel, mais dans une ville comme Paris, ça me semble impossible.
Parce que trop de sollicitations.
Au-delà de la sollicitation, en fait, le souci, c'est pas d'être sollicité. Cette fille, par exemple, avec qui j'ai passé 4 ans, je trouvais que c'était une merveille. Je trouvais que c'était une merveille. Je la trouvais très jolie, je la trouvais intelligente, je la trouvais bien faite. Et tant qu'on était en fait sur ce high de l'amour, il me serait jamais venu à l'esprit de la tromper. Parce que d'une certaine façon, la tromper, j'aurais eu l'impression de me tromper moi-même. J'aurais eu l'impression d'enlever de la valeur à ma relation amoureuse avec elle. Donc ça m'aurait donné l'impression que si je la trompe, c'est que notre relation, elle est pas si ouf que ça. Donc ça n'en vaut pas la peine. Donc c'était un comportement qui me permettait aussi de me complaire dans cette relation. Mais le moment où ça a commencé à être compliqué, et puis soyons honnêtes, c'est aussi le moment où elle a commencé à moins m'exciter. Tu vois, quand tu sors avec quelqu'un, particulièrement quelqu'un dont t'es amoureux et que c'est neuf, chaque fois que la meuf elle sort de la douche, t'as envie d'elle, quoi. Au bout de 3 ou 4 ans, elle sort de la douche, bon, tu la regardes, tu trouves ça toujours agréable d'un point de vue courbe et autre, mais ça s'arrête là, quoi. Au bout d'un moment, juste le poids et la force de l'habitude font que l'objet de ton désir, enfin, qui a en tout cas déterminé ton désir pendant des années, commence à s'estomper. Et c'est aussi le moment où tu vois qu'il y a d'autres gens autour.
Tu penses que le quotidien tue ?
Ouais, je pense.
Et on peut pas se réinventer selon toi ?
On peut.
On peut essayer.
On peut. Enfin, c'est justement la façon dont je te réponds, c'est que j'ai pas d'avis définitif là-dessus. J'en suis simplement au stade où m'amènent mes réflexions et il me semble que il doit y avoir des voies alternatives.
Le trisome.
Le trisome. Le fameux.
Non, je comprends, c'est très intéressant ta réflexion sur justement la monogamie, sa fidélité. Donc là, on a fait cette transition assez naturellement sur demain. Donc là, tu te projettes ou pas, en tout cas, t'es dans des réflexions sur l'avenir. Tu sais pas vraiment ce dont tu as envie aujourd'hui à 33 ans.
Mm-hmm.
Tu as envie d'avoir des enfants.
Ouais, je pense.
Tu as envie de te marier.
Plus aussi sûr qu'avant.
On parlait au tout début que tu es musulman.
Tout à fait.
Est-ce que le poids de la religion dans justement ta construction de vie familiale et future joue ?
Plus vraiment.
Plus vraiment non plus ?
Plus vraiment. En fait, le truc, c'est que au niveau des sociétés où j'ai grandi, on a tendance à voir les sociétés musulmanes comme plus régressives, et elles peuvent l'être parfois. Mais la chape de plomb au niveau de la sexualité qu'on a en Occident est tout aussi dommageable. C'est-à-dire que d'une certaine façon, ces dernières années, je me suis débarrassé plus des concepts que l'Occident m'a inculqués que ceux des sociétés arabo-musulmanes. Ça a été fait en fait dès le départ. À partir du moment où j'ai commencé à coucher avec des filles, immédiatement le rapport à la religion m'a semblé beaucoup moins pertinent par rapport à ça. Là où ces dernières années, justement, c'est tout mon rapport aux filles que j'ai dû changer, et c'est un rapport purement occidental, parce qu'en fait, dès que j'ai commencé à fréquenter des filles, je les ai fréquentées dans ce pays. Et mon rapport à la fille a été construit par ce pays-là. Donc, pendant très très longtemps, tu sais, tu te rends compte que la façon dont l'Occident considère la femme est peut-être un peu plus perverse que la façon dont les pays arabo-musulmans le conçoivent. En gros, hein, je parle pas de l'hypocrisie inhérente aux pays arabo-musulmans, mais celle de l'Occident est assez pernicieuse aussi. Pour te donner un exemple, la fille avec qui je suis resté 4 ans était plus jeune que moi. Et il y a un truc qui m'a choqué, c'est que la moitié, voire les trois quarts de ses copines de lycée avaient été anorexiques, justement, au lycée.
Mmh.
Donc, d'une certaine façon, c'était des filles qui étaient coincées entre 10 000 injonctions. C'est-à-dire, il faut être belle, il faut être ceci, il faut coucher avec des mecs parce que maintenant, t'es libre et tu peux, mais il faut pas passer pour la salope du lycée. Et c'est complètement schizophrénique. Et en fait, il y a un truc qui rejoint d'ailleurs ce que je t'avais dit sur cette fille avec qui j'étais resté un an et qui considérait qu'il y avait des positions qui étaient celles de l'amour et des positions qui étaient celles de du sexe cru, de la baisse, quoi. C'est que beaucoup de filles dans leur rapport à la sexualité ont intégré des conceptions qui sont ultra matistes. Et ça commence à se voir de moins en moins maintenant, mais je suis persuadé que c'est parce que je fréquente aussi des milieux maintenant qui sont plus ouverts et où les filles ont accès à une réflexion sur elles-mêmes et sur leur société qui est beaucoup plus pertinente qu'à cette époque où en fait il y avait un décalage net, même pour les filles, entre les filles bien et les salopes.
Alors qu'aujourd'hui, on peut être une salope et une fille bien en même temps.
Ouais, d'ailleurs, je vous aime les filles bien salopes.
Ceci est un message. C'est super intéressant tout ce que tu m'as dit. Merci.
Je t'en prie.
On va arriver sur la fin. Oh, ça passe vite.
Hein. Terrible.
C'est quoi le mot de la fin ?
J'en sais rien, c'est dur de le dire en un mot, mais en tout cas, je pense...
Tu peux dire une phrase. Hein.
Je peux dire une phrase. Bah... Je pense que le mieux que les gens puissent faire, c'est de voir les choses en face en ce qui les concerne, de se poser des bonnes questions et de se déterminer par eux-mêmes. Parce qu'au final, si on est l'esclave d'une idée qui n'est pas la nôtre, on finit toujours par exploser à un moment donné... Par rapport à ça, personne n'est capable éternellement de suivre un modèle qu'il sent pas particulièrement. Donc ouais, réfléchissez, faites ce que vous voulez.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à partager cette discussion que j'en ai pris à échanger avec mon invité, que je remercie encore une fois infiniment pour sa confiance. Je vous invite à suivre le compte Instagram On The Verge Podcast. Et si vous avez le temps, merci de donner votre avis sur iTunes. Ça permet de donner plus de visibilité au podcast. À très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge.